Content d'être avec vous, les amis, pour terminer ensemble cette série de prédications sur le livre de Sophonie. Alors peut-être que certains ont eu du mal ou ont du mal à trouver le lien pour l'école du dimanche. Alors pas de panique, c'est vrai qu'on a fait quelques changements, mais si vous êtes, soit vous êtes sur YouTube directement pour regarder ce live, vous voyez le chat à votre droite, etc. Dans ce cas, vous allez dans la description de la vidéo YouTube et vous verrez un lien pour suivre l'école du dimanche. Cliquez ici, et donc vous cliquez sur le lien et vous suivrez ça. Soit vous allez sur la page du live du site, donc protestant-bruxelles.be/live. Et dans ce cas, en dessous de la vidéo YouTube, il y a des petites images, des petits blocs d'images qui ont été ajoutés. Et vous cliquez sur l'image où vous voyez Ada, je pense, qui est là, et où il y a marqué pour les enfants. Et donc vous cliquez ici et vous aurez accès à l'école du dimanche du jour. S'il y a vraiment un problème, vous pouvez signaler quelqu'un que vous connaissez, pas moi parce que je ne pourrais pas vous aider, mais signalez-le à quelqu'un et vous devriez réussir. Donc soit sur YouTube, soit sur le site de l'Église. Donc content d'être avec vous pour terminer ensemble cette série de prédications sur Sophonie. 4 dimanches qu'on a passé à vouloir se mettre à l'écoute de ce que ce prophète de la Bible, de l'Ancien Testament, veut nous dire. Et on va encore voir ça aujourd'hui dans les derniers passages. Donc Sophonie 3, les versets 9 à 20. Et j'aimerais juste commencer avec une petite histoire que j'avais entendue et qu'on m'a racontée. On raconte qu'on a posé la question suivante à un théologien de renom, quelqu'un qui avait été pasteur pendant des années. On lui a demandé, mais quelle est la vérité théologique la plus profonde que vous ayez découverte dans toutes vos années d'études de la Bible? Quelle est la vérité théologique la plus profonde que vous ayez découverte? Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu ceci: Jésus m'aime et je le sais. La Bible me le dit. Jésus m'aime et je le sais, la Bible me le dit. Peut-être que ça fait écho chez vous à un chant pour enfants. C'est effectivement ce chant pour enfants qu'il citait. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je chantais ça dans mon enfance, BIBLE, etc. Jésus m'aime et je le sais, la Bible me le dit. Et c'est des paroles toutes simples et peut-être qu'on aurait presque envie de sourire, de rigoler face à sa réponse. Mais en fait, il y a beaucoup de sagesse, énormément de sagesse dans ce que ce pasteur, ce théologien a répondu. Parce que si ces paroles sont simples, toutes simples, elles décrivent néanmoins des vérités qui sont profondes. Les vérités les plus simples sont parfois les vérités les plus profondes. Et c'est le cas concernant la foi chrétienne. Les vérités les plus simples de la foi chrétienne sont les plus profondes. Et c'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui en étudiant ensemble ce passage de Sophonie, chapitre 3, les versets 9 à 20. Le texte de ce matin parle de vérités qui sont simples, mais qui sont profondes. Il n'y a rien de compliqué à saisir, mais pourtant il y a de quoi être bouleversé. En fait, ce texte nous parle d'un jour particulier. On voit au verset 11, il est parlé de « en ce jour-là », ou au verset 16, c'est répété à nouveau « en ce jour-là », un jour particulier. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le livre de Sophonie, on va y revenir. Et donc, je vous propose de voir un peu les caractéristiques de ce jour. Il est parlé d'un jour de grâce, d'un jour de salut. Et on va voir ensemble dans cette prédication trois caractéristiques de ce jour en question. Trois caractéristiques de choses dont il est question à propos de ce jour. On va voir que c'est un jour surprenant, un jour de transformation et un jour de joie. Et donc d'abord, un jour surprenant. Un jour surprenant. Si on est honnête, il faut reconnaître que généralement, dans les livres comme Sophonie ou dans les prophètes de l'Ancien Testament, on est choqué de voir autant de jugements. Et on est rapide à courir vers les quelques passages qui parlent de la grâce pour se rattacher à ces vérités, pour être un peu rassuré. Mais en fait, si on y réfléchit, notre réaction, elle devrait être l'inverse. On ne devrait pas être choqué par les passages de jugement. Comme on l'a vu ces 3 derniers dimanches, ce jugement est normal, il est mérité. Le mal doit être puni. C'est une question de justice. Mais un peu comme je le disais dimanche dernier à la fin de la prédication, si on veut être choqué par quelque chose, on devrait plutôt être choqué de voir la grâce se manifester, de voir un passage comme celui qu'on voit ce matin qui parle d'un Dieu qui sauve d'un jugement qui pourtant est mérité. Et dans ce passage, le changement de ton, il est vraiment surprenant. Ça fait 3 dimanches qu'on a eu des messages qui concernaient le jugement, parce que c'était ce que Sophonie mettait en avant jusque-là. Et on a vu combien ce jugement il était juste, combien il était universel, combien il était définitif. On a terminé la semaine dernière avec le verset 8 qui montrait que Dieu allait se lever et agir pour juger toutes les nations, qu'il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. Et là, surprise. On enchaîne directement avec le verset 9 et les versets suivants qui nous parlent d'un jour qui sera rempli de la grâce de Dieu, d'un jour qui sera rempli de la bonté de Dieu, d'un jour qui sera rempli du désir de Dieu pour sauver. C'est un jour surprenant. Et c'est étonnant de voir un changement aussi brusque. Ce qui doit nous surprendre dans le livre de Sophonie, ce n'est pas le message de jugement, mais c'est le message de grâce. Ce qui va me surprendre, c'est que Sophonie ne s'arrête pas au verset 8, mais qu'il y a le verset 9 et le verset 10 et tous les autres passages de notre texte ce matin qui nous parlent d'un salut qui est merveilleux. Ce qui va me surprendre dans ce livre, c'est que le message ne s'arrête pas au jugement qui est mérité, mais qu'il y a un message de grâce qui est immérité. Et Sophonie ne met pas les deux en opposition dans son livre, le jugement et la grâce, comme si c'était deux choses totalement opposées qui ne pouvaient pas être ensemble. Au contraire, en fait, il dit même que les deux font partie du même jour, du jour de l'Éternel. Comme je disais, on a déjà parlé du jour de l'Éternel dans ce livre de Sophonie, en particulier au chapitre 1. On a vu que c'était le jour, dans le chapitre 1, où Dieu allait agir pour le jugement. C'est toutes les fois où il est répété dans ce livre « en ce jour-là ». Mais on a cette expression dans notre passage, aussi, comme je l'ai dit, au verset 11, au verset 16, pour parler ce coup-ci d'un jour où Dieu va sauver, d'un jour de salut. Donc on apprend que ce jour de jugement, ce sera aussi un jour de salut. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Ce n'est pas des choses séparées, opposées, mais qui vont ensemble. Et c'est ça qui rend ce jour encore plus surprenant. Le jour où Dieu va juger, c'est aussi un jour où Dieu va sauver. Et on doit réaliser qu'il s'agit du même Dieu qui juge et qui sauve. Et donc, il n'y a pas de distinction à faire entre le Dieu dont il serait question au début du livre de Sophonie et le Dieu dont il serait question à la fin du livre de Sophonie. Il s'agit du même Dieu. Il n'y a pas de distinction à faire entre le Dieu de l'Ancien Testament qui serait juste, qui serait en colère contre le mal, et l'autre, le Dieu du Nouveau Testament qui serait plein de bonté, plein d'amour, plein de grâce, plein de compassion. Non, il s'agit du même Dieu dans les deux cas, le même Dieu qui juge et qui sauve. Un Dieu qui, oui, est juste, qui est jaloux de son nom, qui est en colère contre le mal, qui ne peut pas tolérer le mal, et ces choses font partie de son caractère, comme on l'a vu ensemble, mais aussi d'un Dieu qui est plein de grâce, un Dieu qui est plein de bonté, un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu qui est plein de compassion. Et ces choses font aussi partie de son caractère. Et de dire ça, ce n'est pas opposé, les deux peuvent aller ensemble, ce n'est pas contradictoire. En tant qu'être humain, ce n'est pas naturel pour nous de dire ça. Naturellement, on pense que juger et faire grâce, ça ne peut pas se faire en même temps, ou en tout cas pas par la même personne. Mais Sophonie nous montre qu'on ne devrait pas opposer le jugement et la grâce. Dieu peut très bien sauver et juger en même temps. Il peut très bien démontrer sa justice par la manifestation de sa colère, et il peut très bien démontrer son salut en même temps, par la manifestation de sa grâce. On peut penser par exemple à l'Exode, la sortie d'Égypte par le peuple d'Israël. Il y a eu le salut pour les Israélites, mais il y a eu le jugement pour les Égyptiens. Jugement et salut en même temps, jugement d'un côté et salut de l'autre. Mais de manière encore plus grande, on peut voir ça à la croix. Est-ce que Dieu sauve à la croix? Bien évidemment, nous qui plaçons notre foi en Jésus, on est sauvés par la croix. Nos péchés sont pardonnés, le jugement ne doit plus tomber sur nous. On a la paix avec Dieu, il y a un salut complet et merveilleux. Mais est-ce que Dieu juge à la croix? Bien évidemment, aussi il juge. Jésus prend le jugement à notre place. Il prend sur lui la condamnation de nos fautes. Dieu ne peut pas pardonner nos péchés juste comme ça, mettre la poussière sous le tapis. Mais le péché doit être puni et Jésus est celui qui prend cette punition sur lui. Nous, nous sommes sauvés. Mais lui, il est condamné. Jugement d'un côté, salut de l'autre, mais en même temps. C'est comme si on imaginait qu'il y avait un feu de forêt quelque part, et les pompiers, ils arrivent sur place, et après avoir éteint l'incendie, ils découvrent le cadavre d'un oiseau qui est mort. Mais en enlevant ce cadavre, ils découvrent de la vie. Ils découvrent des petits oisillons qui sont vivants. Il y aurait eu, dans ce cas-là, à la fois la mort et le salut, la mort pour l'oiseau qui a protégé ses petits, et le salut pour les petits qui ont été protégés. Bien sûr, ce n'est pas une illustration parfaite de la croix, de ce qui s'est passé à la croix, mais ça nous aide à comprendre qu'à la croix, il y a à la fois le jugement pour Jésus et le salut pour ceux qui se confient en lui. C'est surprenant, ce n'est pas normal. Pas dans le sens que ce ne serait pas juste, c'est tout à fait juste, mais dans le sens que c'est immérité. On ne le mérite pas, c'est surprenant. On ne devrait pas recevoir ça. Un jour surprenant. Mais deuxièmement, on apprend dans ce texte, et là on rentre plus en détail dans ce que ce texte nous enseigne, dans les versets 9 à 13, que ce jour sera aussi un jour de transformation. Un jour de transformation. Vous voyez normalement le plan s'afficher à l'écran, je pense en bas à droite, et donc vous pouvez suivre ça aussi. Donc un jour de transformation. En fait, on voit un contraste frappant dans ce passage par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là. Parce que Sophonie, il avait parlé, en particulier au début du chapitre 3, d'une ville souillée, d'une ville qui était rebelle, d'une ville qui était corrompue. Et là, dans ces versets, il parle de peuples qui ont les lèvres pures, au verset 9. Au verset 10, il parle de gens qui apportent des offrandes à l'Éternel, qui adorent l'Éternel sincèrement. Au verset 13, il parle de personnes qui commettront plus d'injustices, qui diront plus de mensonges. Il y a une transformation totale. Il y a une transformation d'abord pour les nations, dans les versets 9 et 10, c'est-à-dire pas pour le peuple d'Israël, pas pour ceux qui sont juifs, et ça c'est surprenant. On lit au verset 9, « Je transformerai les lèvres de gens d'autres peuples, et je les rendrai purs, pour qu'ils invoquent l'Éternel, et qu'ils le servent tous d'un commun accord. » Il y a des gens d'autres peuples qui vont invoquer l'Éternel, qui vont servir l'Éternel. Ils vont venir de loin, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ces personnes-là sont appelées ceux que l'Éternel a dispersés. Et ça nous aide à voir que ce qui se passe ici, c'est un peu le renversement de ce qui s'est passé à Babel. Si vous vous souvenez, l'histoire de la tour de Babel, dans Genèse au chapitre 11, un épisode où les êtres humains ont voulu défier l'autorité de Dieu en construisant une tour qui allait toucher le ciel pour se faire un nom, pour être grand sur la terre. Et c'est là que Dieu a brouillé leur langage et a dispersé les êtres humains sur toute la surface de la terre. Mais Sophonie nous dit ici que ceci aura une fin. Ceux qui ont été dispersés vont être réunis. Il y a un jour où les gens de tous les peuples serviront l'Éternel d'un commun accord, côte à côte, ensemble. Il y a un jour où les peuples seront unis à nouveau. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'Évangile. C'est ce que Paul met en avant dans Éphésiens 2 qu'on a lu la semaine dernière. Jésus a renversé le mur de haine qui séparait les Juifs et les non-Juifs pour créer un seul peuple. Paul nous dit dans Éphésiens 2, le verset 16, « Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre, donc juifs et non-juifs, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. » Dans l'Évangile, nous voyons qu'il n'est plus question de guerre ou de conflit en fonction de notre origine, de notre nationalité, de notre couleur de peau. Mais il est question d'avoir été racheté par le même sang qui a coulé sur la croix, d'avoir été racheté par un même sauveur, de servir Dieu ensemble, les peuples qui sont unis. Mais cette transformation, elle ne concerne pas que les nations. Dieu s'adresse aussi au peuple d'Israël dans les versets suivants, les versets 11 à 13. Et là encore, on peut remarquer que la transformation, elle est totale. Il est question au début du verset 11 de ne plus avoir honte ou de culpabilité par rapport aux fautes du passé. Regardez avec moi ce qu'il est dit. « En ce jour-là, mon peuple, tu ne porteras plus la honte à cause des méfaits que tu as commis contre moi. » Il y aura le pardon pour les fautes du passé. Et dans le présent, leur manière d'agir sera juste, leur manière d'agir sera droite. On voit ça avec le verset 13. Les restes d'Israël ne commettront plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. On n'entendra plus dans leur bouche de langage trompeur, quand ils paîtront en paix et se reposeront sans que nul ne les trouble. On peut se demander, mais qui est concerné par ces promesses? À qui est-ce que ça s'adresse? On voit qu'il est question au verset 13 d'un reste d'Israël, pas tout le peuple, mais d'un reste. Ça revient à plusieurs reprises dans les prophètes de dire que le jugement va tomber, mais qu'un reste du peuple, une partie du peuple, sera sauvé. Et qu'est-ce qui caractérise ces personnes? On apprend ça avec le verset 12, où il est écrit « Je laisserai vivre au milieu de toi un peuple pauvre, démuni, qui cherchera refuge en l'Éternel. » C'est pas ceux qui sont orgueilleux, parce que ceux qui sont orgueilleux vont être ôtés du sein de la ville, on voit avec la fin du verset 11, mais c'est un peuple pauvre et démuni. Ou on pourrait traduire ça aussi « humble et faible, qui cherche refuge en l'Éternel. » Il s'agit de ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, de leur faiblesse, de leur besoin de Dieu. Il s'agit de ceux qui sont conscients du besoin urgent de trouver refuge en l'Éternel. Il s'agit d'un peuple qui a la foi. Il n'y a pas de distinction à faire entre ce qu'on voit au verset 9 et 10 concernant les peuples et ce qu'on voit ici. Les promesses que ce passage décrit s'adressent aussi aux autres peuples, à tous ceux qui sont humbles et faibles, à tous ceux qui trouvent refuge en l'Éternel. C'est ce que Paul dira quelques centaines d'années plus tard dans la lettre aux Romains, dans Romains 10, il dit ceci, « Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif. Pourquoi? Puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Il n'est plus question de savoir si on est juif ou pas, il n'est plus question d'un critère d'ethnicité, mais la promesse de salut est pour tous ceux qui font appel Au nom du Seigneur, pour tous ceux qui reconnaissent leur condition spirituelle et leur besoin d'un sauveur, pour tous ceux qui sont prêts à s'humilier. Parce que oui, il faut s'humilier pour recevoir l'Évangile. Trouver de refuge dans le Seigneur, c'est reconnaître que j'ai fait faux, reconnaître que je me suis trompé, que je suis coupable. C'est reconnaître que je mérite le jugement, que j'ai aucun espoir en moi-même. Il faut s'humilier au plus bas. Et pour les orgueilleux, pour les puissants de ce monde, pour ceux qui sont à l'aise dans la sécurité, dans la richesse ou d'autres choses auxquelles on est attaché, c'est une folie de faire ça. L'être humain ne veut pas courber la tête. L'être humain ne veut pas plier les genoux devant Dieu. J'ai souvent des amis non-chrétiens qui me disent « Mais c'est trop simple, il suffit de croire en Jésus pour être pardonné de ses péchés. » Oui, c'est simple dans le sens où il ne faut rien faire pour ça. Mais c'est coûteux. Ça implique de renoncer à soi-même, de réaliser que j'ai fait faux, de s'humilier au plus bas et de réaliser que j'ai besoin d'être changé. Et cette transformation que Sophonie décrit nous aide aussi à comprendre où trouver le changement véritable. Parce que quand on lit ce qui est dit dans ces versets, ça nous semble être un monde qui est idéal. C'est ce qu'on veut, c'est ce après quoi on aspire. L'unité des peuples, la fin de l'injustice, la fin des tromperies. Surtout en ce moment où on est conscient des dégâts que provoquent les divisions basées sur la couleur de peau, sur la discrimination, sur les inégalités sociales. C'est juste terrible, c'est dévastateur. Et on veut le changement face à ça. On veut un monde meilleur. Mais un peu comme on l'a dit la semaine dernière, ce texte nous montre que pour arriver à ça, pour arriver à ce changement, il faut une transformation des individus. Il faut que les êtres humains fassent la paix avec Dieu pour connaître cette transformation de cœur. Comme on le dit souvent, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Notre cœur a besoin de changer. Notre cœur a besoin d'être totalement transformé. Steve a parlé de cette vidéo d'évangélisation qu'on prévoit de faire. Et dedans, il y a cette phrase qu'on a mis. La question n'est pas qu'est-ce qui doit changer, mais qui doit changer. La question n'est pas qu'est-ce qui doit changer, mais qui doit changer. Vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote d'un journal qui aurait posé la question quel est le problème du monde? Quel est le problème principal du monde? Et on raconte que l'écrivain Chesterton aurait écrit une lettre pour simplement répondre « c'est moi ». Alors cette histoire est une légende, désolé de vous décevoir, mais j'ai retrouvé la vraie histoire avec quelques sources, qui est celle-ci. Quelqu'un avait écrit une lettre qui est intitulée « Qu'est-ce qui ne va pas avec le monde ?» Donc c'est la même question, quel est le problème du monde? Qu'est-ce qui ne va pas avec le monde? Et Chesterton, cet écrivain, il avait répondu dans un journal, et dans sa réponse, on pouvait lire ceci. Dans toute sa réponse, il disait ceci. La réponse à la question « qu'est-ce qui ne va pas ?» est ou devrait être « moi, je ne vais pas. » Moi, je ne vais pas. Tant qu'un homme ne peut pas donner cette réponse, son idéalisme n'est qu'un passe-temps. Pour atteindre cet idéal que Sophonie décrit, nous avons besoin d'une transformation personnelle, individuelle, de cœur. Et le salut que Dieu met en place, qui est annoncé ici dans Sophonie, qui est accompli par Jésus-Christ, il permet cette transformation de cœur, cette nouvelle naissance, cette œuvre de l'Esprit qui nous purifie. Je parlais cette semaine ou la semaine passée avec un non-chrétien. On discutait de la religion, de toutes sortes d'autres choses, et il faisait que de me répéter, mais en fait, il faut s'aimer les uns les autres. C'est ça qui devrait être le but des religions. Il faut juste s'aimer les uns les autres, c'est l'amour. J'aimerais dire, mais c'est une très belle chose que l'amour, et je lui ai répondu, c'est pas mauvais de s'aimer, mais on doit réaliser que pour véritablement s'aimer, il faut qu'on soit transformé. Il faut réaliser qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'aimer réellement, et qui provoque toutes les divisions, la détresse que l'on voit aujourd'hui. Et seule la foi chrétienne offre cette transformation de cœur intérieur, personnel. Alors peut-être qu'on pourrait se dire maintenant, mais pourtant, même en tant que chrétien, il y a encore des divisions. Même en tant que chrétien, malheureusement, il y a parfois encore du racisme et c'est terrible. Ou encore, on pourrait se dire, mais dans ma propre vie, quand je me vois vivre, je ne suis pas en train de vivre ce que le verset 12 met en avant, le verset 13, sans injustice, sans tromperie, je ne suis pas en train de vivre ça. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espérance pour moi? Ou est-ce que ça veut dire que le message de l'Évangile n'est pas suffisamment puissant pour transformer les cœurs? C'est là qu'on doit réaliser la tension qui existe dans ce passage et dans beaucoup de promesses de l'Ancien Testament. On pourrait dire que ce qui est écrit ici, c'est déjà accompli, mais pas encore totalement accompli. On vit déjà cela, mais pas encore pleinement comme on le vivra un jour. Oui, en tant que chrétien, on est pardonné de nos péchés, on est né de nouveau, on est enfant de Dieu, on est enfant de la justice, on est saint aux yeux de Dieu. Mais on n'est pas encore ce que nous serons un jour, où nous pécherons plus, où nous aurons atteint réellement, effectivement, la perfection. Cette promesse est déjà accomplie, mais pas encore pleinement. Et donc, en attendant la réalisation complète de cette promesse, on vit dans cette tension aujourd'hui, en réalisant que ce monde n'est pas ce qu'il devrait être et que ce monde n'est pas ce qu'il sera. En réalisant que nous ne sommes pas ce que nous devons être et ce que nous serons un jour. Mais il y a un jour où tous les mystères seront révélés, où tous les problèmes seront résolus, quand Jésus reviendra dans la gloire et qu'on vivra avec lui pour l'éternité. Là, il sera plus question de déjà, mais pas encore. Non, il sera question d'un accomplissement complet, final, éternel, et d'une transformation complète, comme ce texte met en avant. Un jour de transformation. Mais troisièmement, on voit dans ce texte que ce sera aussi un jour de joie, et on apprend ça avec les versets 14 à 17. Et en fait, c'est assez logique de penser ça, que ce jour est caractérisé par la joie, parce que une telle intervention de la part de Dieu, un tel changement, ne laisse pas indifférent. Et dans les versets suivants, 14 et suivants, c'est comme si Sophonie allait décrire un peu les effets de ce jour du salut. Il a décrit la cause qui va se passer et quels sont les effets de ça. Qu'est-ce que ça va produire chez ceux qui sont sauvés, mais aussi, et de manière surprenante, chez Dieu lui-même. Déjà, on voit qu'il y aura la joie pour le peuple au verset 14 et 15. Pousse des cris de joie aux communautés de Sion. Lance un cri de triomphe, ô Israël. Réjouis-toi, exulte de tout cœur, ô communauté de Jérusalem. L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous, et il a refoulé vos ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous, vous ne craindrez plus de malheur. Réjouis-toi, parce que le jugement a disparu. Et quelle source de joie, en effet, pour le peuple, après trois chapitres de jugement qui auraient pu s'arrêter là, que ça ne s'arrête pas là, et qu'il y ait un message de salut. Le jugement que tu méritais a été détourné de toi. Et parce que le jugement a été exposé chapitre après chapitre, détaillé, décrit de manière précise, bah alors parce que ça a été le cas, la joie est encore plus grande de savoir que ce jugement-là a disparu. En fait, plus on sera conscient de la gravité du jugement, plus notre joie sera grande quand on réalisera qu'il y a un moyen d'échapper à ce jugement. Plus on sera conscient de la réalité du jugement, plus la grâce brillera à nos yeux. Le jugement fait briller la grâce. Je me souviendrai toujours d'une illustration que Paul Washer a mis en avant, un prédicateur américain. Il dit qu'on ne voit pas les étoiles en plein jour, on ne voit pas les étoiles la journée. Pourtant, elles sont quand même là. Mais c'est que quand il fait nuit qu'on voit les étoiles briller de toute leur force. Alors, pas à Bruxelles, mais en dehors, en Wallonie ou ailleurs. C'est là, quand il fait nuit, qu'on voit les étoiles briller. Et c'est la même chose avec le jugement et la grâce. C'est que sur le fond sombre et ténébreux de notre condamnation, de notre corruption, du jugement qu'on mérite, que la croix brille dans toute sa splendeur. Plus on est conscient de la gravité du jugement, plus on sera émerveillé devant la grâce. Et c'est un peu ça ici, après trois chapitres de jugement, ce texte de Sophonie brille en pleine lumière et provoque la joie du peuple. Peut-être quand on entend parler de la joie, pour nous en tant que chrétiens, c'est une lutte, peut-être qu'on lutte avec ça. Mais ce texte nous montre que la vraie joie vient en réponse à une juste compréhension du jugement et une juste compréhension de la grâce. De réaliser que mon plus grand problème a été réglé, que je méritais un jugement éternel en raison de ma rébellion contre Dieu, mais que le Dieu qui devait me juger est le Dieu qui est venu pour me sauver, en envoyant son propre Fils mourir sur une croix, prendre ma punition, et donc de pouvoir réaliser qu'aujourd'hui je suis libre. Je suis pardonné de mes péchés, je suis certain de mon avenir éternel et de réaliser que rien ni personne ne pourra m'enlever ça, c'est quelque chose de fixe, de réel, de certain. Dans l'Évangile, on a la source d'une joie profonde. Grâce à l'Évangile, on peut être toujours joyeux, comme la Bible nous y appelle. Et cette joie, ce n'est pas un simple sentiment, ce n'est pas juste un sourire sur les lèvres, une émotion passagère, ce n'est même pas une hystérie provoquée par un enthousiasme religieux. Non, cette joie, c'est la satisfaction profonde de savoir qu'on a trouvé en Jésus ce qu'on avait besoin, de savoir qu'en Jésus, on a été délivré du jugement. C'est la satisfaction profonde de savoir que peu importe ce que je traverse dans ma vie, peu importe les circonstances, peu importe ce que mes sentiments me disent, peu importe les émotions du moment, tout va bien pour mon âme. Mon âme est en sécurité. Mon âme est en bonne santé. J'ai été racheté par Jésus. Et c'est le plus important. Nous découvrons la source de la joie profonde. Mais ce qui est étonnant encore plus dans ce passage, beaucoup de choses étonnantes, mais encore plus, c'est de voir que non seulement ça va provoquer la joie de ceux qui sont sauvés, ce jour de salut, mais ça va aussi provoquer la joie de Dieu lui-même, dans le verset 17. Le verset 17 nous dit ceci: L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet, et poussera des cris de joie. Et là encore, le changement qui a eu lieu est frappant. Avant, le peuple provoquait l'horreur de Dieu, la colère de Dieu, parce qu'il était rebelle, il était pécheur, il était souillé. Mais là, après cette transformation totale qui a eu lieu, le peuple fait la joie de Dieu. Dieu est dans l'allégresse, il est transporté de joie, il pousse des cris de joie. On aurait du mal à le croire si ce n'était pas écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité pour nous, en tant que chrétiens, qui avons connu cette transformation totale dont il est parlé, ce changement frappant. Alors qu'on était pécheurs et qu'on provoquait le dégoût de Dieu, son Fils a pris sur lui la condamnation de nos péchés. Et son Fils nous a revêtus de sa justice parfaite, de son obéissance parfaite aux yeux de Dieu, d'habits purs. C'est ce que signifie le fait qu'on ait été déclaré juste. Et donc, aux yeux de Dieu, nous sommes justes, nous sommes saints. Et quand Dieu nous voit, il nous voit avec la justice et la sainteté de son propre Fils, qui est parfaite. Et donc il peut sourire en nous voyant. Il peut se réjouir dans cette perfection, y prendre plaisir. Par grâce, nous faisons réellement le plaisir et la joie de Dieu. À ce sujet, l'auteur chrétien Lewis, C.S. Lewis, a écrit ceci: Plaire à Dieu, être un véritable ingrédient du bonheur divin, être aimé de Dieu, pas simplement être pris en pitié, mais que Dieu se délecte de nous comme un artiste se délecte de son travail ou un père d'un fils, cela semble impossible, un poids ou un fardeau de gloire que nos pensées peuvent difficilement supporter. Mais il en est ainsi. Quelle vérité merveilleuse, étonnante! Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus que ça? Que de savoir que le Dieu de l'univers fait de nous sa plus grande joie. Quand on réalise ça, les autres domaines de notre vie où on voudrait chercher l'approbation des autres perdent leur valeur, perdent leur importance, perdent de leur poids. De lutter pour l'approbation des autres, de faire la course au like sur les réseaux sociaux, de souffrir justement parce qu'on est le seul chrétien dans notre entourage, d'avoir perdu la confiance d'un ami à cause de notre foi ou pour d'autres raisons, ces choses perdent leur poids, de leur importance quand on prend conscience que le Dieu de l'univers trouve en nous sa plus grande joie. Quand on réalise qu'on a son approbation, qu'on a son regard de faveur et qu'on n'a rien besoin de plus. Peut-être que vous êtes chrétien depuis des années et vous vous sentez spirituellement un peu sec en ce moment. Vous connaissez l'évangile depuis longtemps. Oui, Jésus est mort pour moi, ça devrait être merveilleux, mais je ne ressens plus rien par rapport à ça. Je me sens sec, j'ai plus les émotions que j'avais au début. Si c'est votre cas, j'espère que vous pourrez être réjoui à nouveau par cette vérité. Si vous êtes en Christ, Dieu trouve sa joie en vous, son plus grand sujet de joie. Ça paraît fou dit comme ça. On aurait presque peur de l'affirmer, mais c'est la Bible qui le dit, c'est réel et c'est basé sur l'efficacité de l'Évangile, qu'on est juste aux yeux de Dieu et que Dieu fait de nous sa plus grande joie. Trop souvent, on a la pensée en tant que chrétien que Dieu est en colère avec nous, que Dieu ne doit pas être satisfait avec ma propre vie, avec mes propres efforts. Je dois en faire plus. Je dois plus lire ma Bible, je dois prier plus, je dois essayer de satisfaire ce Dieu qui me semble si sévère. Mais agir comme ça, c'est nier la puissance de l'Évangile qui a changé notre statut aux yeux de Dieu, l'image que Dieu a de nous et donc l'image que nous pouvons avoir de Dieu. Si nous sommes en Christ, l'attitude de Dieu envers nous, c'est celle du verset 17, qu'il trouve sa plus grande joie en nous, qu'il prend plaisir en nous. Donc c'est pas qu'on doit essayer d'en faire plus pour satisfaire Dieu. Mais c'est qu'on doit réaliser qu'on a déjà tout, que Dieu nous aime, qu'il sourit à notre égard, et de voir comment ça nous motive à vivre pour lui. Je cite juste John Owen, un puritain du XVIIe siècle par rapport à ça, qui disait ceci: Ça paraît très actuel, on serait étonné que c'est lui qui a écrit ça, j'avais cité ça dans un point Théo il y a quelques semaines. Le problème avec certains chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils essayent trop fort. Ils sont trop rigides, ils ont trop souci de bien accomplir leurs tâches, sont trop focalisés sur quelle sorte de personne ils devraient être et comment ils devraient se comporter. Ils sont trop inquiets pour atteindre les exigences de Dieu. Tout ce dont ils ont besoin est de se relaxer, de réaliser combien Dieu les aime et de se réjouir de toutes les bénédictions qu'il leur a données en Christ. Ce jour sera un jour de joie. Alors Jésus m'aime et je le sais, la Bible me le dit. C'est une vérité simple, mais incroyablement profonde, comme on l'a vu. On est déjà au bénéfice de ça aujourd'hui, mais on attend encore le plein accomplissement, la pleine réalisation dans l'éternité. C'est déjà là, mais pas encore pleinement. Et on voit ça avec les versets 18 à 20 qui terminent ce livre de Sophonie. On va juste conclure ici rapidement. Il termine ce livre un peu en apogée. Il est question d'un rétablissement complet, du renversement de la honte, de renommée aux yeux des peuples, de choses qu'on ne vit pas encore maintenant pleinement. Et ce rétablissement complet dont il est question ici dans ces versets, ça concerne ceux dont on a déjà parlé avant, le reste d'Israël, ceux qui trouvent refuge dans le Seigneur, de ceux dont les nations font partie. Il s'agit, comme Paul le dira, de ceux qui font appel au Seigneur, des vrais croyants, de nous, chrétiens, aujourd'hui. Et on attend cette résolution finale. On attend ce rétablissement complet. Ce jour où le peuple de Dieu sera glorifié dans le Fils et où le Fils sera glorifié dans son peuple. Ce jour où l'unité des peuples sera parfaite, sera définitive, sera complète, où les peuples seront vraiment unis pour adorer le Seigneur ensemble. Et on a un aperçu de ça dans l'Apocalypse, dans la vision que Jean a eue de l'Apocalypse, de la gloire de Dieu. Il écrit ceci: Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est le moment qu'on attend. Et ce moment, ce sera également le plein accomplissement de ce que Sophonie a décrit dans son livre, le jour de l'Éternel. Jour de jugement pour beaucoup et jour de salut pour ceux qui se réfugient dans le Fils. Et nous savons avec certitude que ces choses vont arriver. Pourquoi? À cause du dernier mot, de la dernière phrase du livre de Sophonie. À la fin du verset 20, l'Éternel le déclare. C'est Dieu qui a dit tout ça, le Dieu de l'univers, l'Éternel, c'est lui qui promet tout cela, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui ne fait pas d'erreur. Et donc aujourd'hui, nous attendons le plein accomplissement de toutes ces choses. Avec espérance, avec espoir, mais aussi avec certitude que Dieu accomplira ses promesses. Dieu l'a promis, Dieu le fera. Alors prions ensemble pour terminer. Notre Dieu, on te remercie pour cette confiance incroyable qu'on peut avoir en toi, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui tient tes promesses. On te remercie pour ce passage surprenant qui nous parle de salut, qui nous parle de grâce, qui nous parle de ta bonté, de ta compassion. On te remercie parce que ces choses sont une réalité. Et on te remercie parce qu'en Christ, on peut être au bénéfice de cela. On te remercie parce que tu fais de nous, en Christ, ta plus grande joie. Quel privilège, quelle vérité profonde et qui nous bouleverse. Et je te prie que ces vérités restent claires devant nos yeux pour aujourd'hui, pour le reste de cette semaine et pour notre vie. Et on prie dans le nom de Jésus. Amen.